Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à l'écoute en ce jeudi 25 janvier 2024. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. À la une de l'actualité ce matin, suite du périple africain du patron de la diplomatie américaine. Depuis le Nigeria, Anthony Blinken appelle les États-Unis à relancer le PEPFAR, le plan de lutte contre le sida. L'Espagne instaure un visa de transit aéroportuaire pour les Sénégalais. Washington a dit déplorer une attaque meurtrière perpétrée contre un abri de l'ONU à Gaza. Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire, pays hôte, est sauvée avant le choc Cameroun-Nigeria en huitième de finale.
Merci beaucoup à vous, le Maroc.
On n'avait même pas d'espoir, mais la fête était bonne. On est très contents, nous sommes dans la joie.
Tous les détails à venir en début de journal. Du ballon rond pour démarrer, si la Côte d'Ivoire a effectivement été sauvée d'une humiliante élimination à domicile au premier tour, d'autres favoris ont failli à la Coupe d'Afrique avant des huitièmes de finale avec deux chocs, Cameroun-Nigeria et le tenant sénégalais contre le pays organisateur. Encore une fois ce matin, nous retrouvons Bagasse Koura et Yacouba Ouidraogo, nos envoyés spéciaux à Abidjan, et c'est donc parti pour le journal de la CAN.
Effectivement, les deux derniers groupes ont bouclé hier les matchs de la phase de poule. Dans le groupe E, le Mali et la Namibie se sont neutralisés 0-0. Même score entre l'Afrique du Sud et la Tunisie. Conséquence au classement, le Mali finit leader du groupe E avec 5 points devant l'Afrique du Sud, 4 points. De même que la Namibie, 4 points. Le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie se qualifient donc pour les huitièmes. La Tunisie est éliminée avec 2 points. Dans la poule F, la RDC et la Tanzanie ont aussi fait match nul, 0-0, tandis que le Maroc a battu la Zambie 1-0 pour consolider sa place de leader avec 7 points. Les Léopards de la RDC, deuxième, et les Lions de l'Atlas sont ainsi qualifiés pour les huitièmes. Le compte-rendu de la rencontre Maroc-Zambie avec notre envoyé spécial à San Pedro, Amin Birouk.
Les supporters ivoiriens, toutes confessions confondues, peuvent dire merci au Maroc. En effet, la victoire ce mercredi des Lions de l'Atlas devant la Zambie sur le score d'un but à zéro a permis aux éléphants de décrocher la dernière place qualificative pour les huitièmes de finale de la CAN. Un résultat qui permet également aux Marocains de finir en tête de leur groupe avec 7 points sur 9 possibles. Les Lions de l'Atlas ont pris le match par le bon bout, poussant les Zambiens dans leur dernier retranchement. Leurs efforts étaient couronnés de succès à la 37e minute par le capitaine d'un soir, Hakim Ziyech. Obligés d'obtenir au moins le but égalisateur pour pouvoir se qualifier, les Zambiens faisaient le forcing sans pour autant menacer outre mesure le portier Yassine Bounou. Au coup de sifflet final, l'euphorie des fans de la Côte d'Ivoire se confondait avec la joie mesurée des Marocains qui donnent rendez-vous au Bafana Bafana d'Afrique du Sud mardi prochain dans un match couperé comptant pour les huitièmes de finale. Quant aux hommes d'Avram Grant, ils quittent la CAN Fanny puisqu'ils n'ont plus gagné le moindre match depuis leur sacre historique en 2012. Depuis San Pedro, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Merci Amin. Justement, cette victoire marocaine profite du même coup à la Côte d'Ivoire qui arrache son ticket en tant que dernière meilleure troisième. Les Ivoiriens ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Abidjan au coup de sifflet final du match Maroc-Zambie. Certains se sont exprimés au micro d'Alain Amonchi.
C'est un grand plaisir pour le Maroc d'avoir permis à ces deux nous soient qualifiés. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, le Maroc.
On n'avait même pas d'espoir, mais la fête était bonne. On est très contents. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes contents, nous les Ivoiriens. Nous sommes merci aux Marocains qui nous ont sauvés de cette honte nationale.
Avant-hier, on avait mal, mais aujourd'hui, très heureux. Vous voyez, Maroc nous a fait avancer, plus même le propre Maroc encore. Donc, en tout cas, on est fiers de ça. Voilà, on est fiers.
Nous sommes fiers des Marocains, nous sommes qualifiés pour la huitième de finale. Allez, les éléphants! La CAN, c'est chez nous!
On connaît justement désormais le tableau complet de huitième de finale. Dès ce samedi 27 janvier, l'Angola affronte la Namibie au stade de la paix de Boaké. Et juste après, à 21h, le Nigeria fait face au Cameroun dans un classique du football africain. Le dimanche 28 janvier, la surprenante Guinée équatoriale reçoit la Guinée au stade Alassane Ouattara. Et à 21h, l'Égypte fait face à la République démocratique du Congo. Lundi, pour le premier huitième de finale de son histoire à la CAN, La Mauritanie défie le Cap Vert à 18h avant le gros choc ouest-africain attendu à 21h entre le champion en titre, le Sénégal, et la ressuscitée Côte d'Ivoire. Les derniers matchs des huitièmes de finale ont lieu mardi. Le Mali fait face au Burkina Faso à 18h et le Maroc boucle ses huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud. Cette CAN 2023 aura aussi vu de nombreux sélectionneurs limogés pour insuffisance de résultats. C'est le cas de l'Algérien Jamel Belmadi, du sélectionneur du Ghana Chris Horton, le Tunisien Jalal Kadri et le coach de la Gambie Tom Sanfief. Eux ont rendu le tablier. Le coach des éléphants Jean-Louis Gasset a vu son contrat terminé par la FIFA. Pour ce dernier, l'annonce a été faite hier par un communiqué de la Fédération ivoirienne de football. L'intérim est assuré par le sélectionneur-entraîneur Emers Faye, ancien international ivoirien qui fera son baptême de feu face à un gros morceau, le Sénégal champion en titre, lundi à Yamoussoukro. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
Alors qu'il poursuit sa tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le Congrès à dépasser ses divisions et à reconduire le programme d'aide des États-Unis à la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Le point avec Nanit Talani.
Pour le chef de la diplomatie américaine, il est important de prolonger rapidement le PEPFAR, le plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida, lancé en 2003 pour 20 ans et qui a permis de sauver 25 millions de vies, principalement en Afrique, selon les responsables américains. Il s'agit littéralement de sauver plus de vies, de changer plus de vies, de s'attaquer une fois pour toutes au VIH-Sida, a déclaré Anthony Blinken hier à Lagos, où il a rencontré des médecins de l'Institut nigérian de recherche médicale. Monsieur Blinken, qui a également été informé du travail de l'Institut contre le COVID-19, a indiqué que le PEPFAR contribue à renforcer les systèmes de santé publique de sorte que lorsque la prochaine épidémie surviendra, et elle surviendra, dit-il, nous et les pays du monde entier serons en bien meilleure position pour y faire face de manière rapide et efficace. Les enjeux sont réels, ils ne pourraient pas être plus élevés, a-t-il ajouté. L'ancien président américain George W. Bush considère le PEPFAR comme l'une de ses plus grandes réalisations, mais sa prolongation pour 5 ans n'a pas été approuvée au Congrès en raison de profondes dissensions liées au débat sur l'avortement aux États-Unis.
Nous restons au Nigeria. La police islamique dans la ville de Kano recherche 6 célébrités des médias sociaux pour une vidéo publiée sur Internet et jugée immorale quelques mois après leur promesse de ne plus proférer d'obscénité en ligne. Les détails avec Michel Joseph.
La police islamique de Kano, appelée Hizbah, a ordonné à 6 célébrités de TikTok de se présenter dans ses locaux pour un nouveau sermon après la publication d'une vidéo immorale, a déclaré Aminu Daourawa, chef de la Hizbah. Nous les recherchons pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont posté une vidéo après avoir promis de ne plus le faire, a déclaré M. Daourawa, se référant à une vidéo mentionnant un aphrodisiaque. 3 hommes et 3 femmes sont concernés, dont Morja Kounia, 24 ans, qui a eu déjà plusieurs fois maille à partir avec la Hizbah pour ses vidéos jugées obscènes. Les autres sont G-Fresh, Saadia Haruna, Ashiru Idris, Oumme Shakura et Hassan Makeup. En novembre, Morja Kounia et des dizaines d'influenceurs ont répondu à l'invitation de la Hizbah pour participer à une réunion pour chasser les contenus dits immoraux qu'ils publient en ligne. Kano est l'un des 12 États dans le nord du Nigeria à prédominance musulmane qui applique la charia parallèlement au droit commun. La ville abrite aussi une industrie cinématographique florissante baptisée Kannywood qui produit plus de 200 films par mois en langue Hausa et se trouve maintenant dans le collimateur de la police religieuse.
Au Ghana, 6 personnes ont été condamnées à mort pour tentative de coup d'État. Les 6 hommes, dont 3 militaires, ont été reconnus coupables et condamnés à la pendaison hier pour leur implication dans un complot présumé visant à renverser le gouvernement du pays il y a 3 ans. 3 autres ont été acquittés, un ancien responsable de la police, un colonel et un autre officier subalterne. Accusés de complot en vue de commettre une trahison, ils ont tous plaidé non coupables au cours du procès. Au Niger, une enquête policière a été ouverte après la saisie il y a 3 semaines de plus d'une tonne d'or à l'aéroport d'Addis Abeba en provenance de Niamey. 1400 kilos d'or d'une valeur évaluée à près de 60 milliards de francs CFA, soit plus de 99 millions de dollars, ont été saisis dans la capitale éthiopienne, indique l'ONG Transparency International, sans donner de date précise. En République démocratique du Congo, un drone de combat de l'armée du pays a pris feu hier lors de son atterrissage, alors qu'un appareil similaire aurait été abattu 2 semaines plus tôt par la rébellion du M23 dans la région orientale. Selon des agents de la régie des voies aériennes, certains de leurs collègues ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête et d'autres ont été blessés dans l'incident survenu à Kamouvu, situé à une 20 kilomètres au nord de Bukavu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, l'Espagne affirme que les Sénégalais faisant escale dans ses aéroports devront désormais être munis d'un visa de transit, alors que l'aéroport de Madrid est confronté à un afflux inédit de demandeurs d'asile bloqués dans les zones d'accueil dédiées. Les précisions avec Rosine Munezero.
La mesure entre en vigueur le 19 février, a annoncé l'ambassade d'Espagne au Sénégal qui ne donne pas d'explication. Cette annonce intervient quelques jours après la mise en place d'une mesure similaire en Espagne pour les ressortissants kényans. L'aéroport de Madrid a connu une augmentation exponentielle du nombre de demandeurs d'asile et les zones d'accueil sont débordées, selon la Commission espagnole d'aide aux réfugiés. La surpopulation et les conditions insalubres ont atteint des niveaux critiques avec une accumulation d'ordures et une pénurie de serviettes de bain, a alerté cette organisation non gouvernementale. L'ONG s'est plainte aussi des retards dans le traitement des demandes d'asile. Sur les 390 personnes bloquées dans des conditions difficiles, environ 182 n'ont pas pu formaliser leurs réclamations. Les syndicats de police se plaignent depuis des semaines du fait que de nombreux détenteurs de passeports sénégalais censés se rendre au Brésil ont demandé l'asile lors d'une escale à Madrid.
Les États-Unis déplorent l'attaque meurtrière ayant visé un refuge pour déplacés de l'ONU à Khan Younes, dans la bande de Gaza. Washington appelle à ce que les sites des Nations Unies soient protégés. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
Nous déplorons l'attaque perpétrée contre le centre des Nations Unies à Khan Younes, a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel. Au moins 9 personnes ont été tuées dans l'attaque qui s'est produite mercredi. 2 chars ont frappé un bâtiment qui abrite 800 personnes. Des images diffusées par la chaîne Al Jazeera en arabe montraient d'épaisses fumées et des flammes émergeant du bâtiment. L'ONU dénonce une violation flagrante des règles de la guerre, affirmant que le centre de formation devenu abri était clairement marqué comme une structure de l'organisation et ses coordonnées partagées avec les autorités israéliennes. L'armée israélienne a indiqué avoir encerclé Khan Younes, où elle a intensifié ses opérations contre le mouvement islamiste palestinien Hamas. Elle n'avait pas répondu immédiatement aux sollicitations de l'AFP mercredi soir.
Également dans l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui à la demande de Moscou qui accuse Kiev d'avoir abattu un avion de transport militaire russe et tué tous ses passagers, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté demandé l'ouverture d'une enquête internationale et chargé plusieurs agences d'État de conduire leurs propres investigations sur le crash. Au Japon, un homme a été condamné à la peine de mort aujourd'hui pour l'incendie criminel d'un studio d'animation à Kyoto, un drame qui a fait 36 morts en 2019. L'incendie du studio Kyoto Animation, causé par Shinji Aoba, 45 ans, est l'un des crimes ayant fait le plus de victimes dans l'archipel depuis des décennies et a déclenché une vague d'émotion et d'indignation au Japon et à l'étranger. 12 personnes ont été placées en détention en Chine pour leur responsabilité présumée dans l'incendie d'un magasin qui a fait 39 morts hier soir, rapporte un média d'État. L'incendie, l'un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays, s'est produit à Xinyu, une ville située à 740 km de Shanghai. Le pape François se rendra en août prochain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, indique ce jeudi le ministre des Affaires étrangères de ce pays de l'océan Pacifique, théâtre de violentes émeutes urbaines mi-janvier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui se poursuit. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Lors d'un vote avant-hier, le Parlement togolais a modifié une loi organique portant de 91 à 113 le nombre de députés pour les prochaines législatives. Le scrutin va être couplé avec les élections régionales que le Togo tiendra pour la première fois en vertu d'un autre changement apporté par les députés au code électoral. En revanche, aucune date n'a encore été fixée pour le rendez-vous électoral, mais d'après le gouvernement, il aura lieu dans le courant de cette année. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Boussou.
Le gouvernement qui a amené ce projet devant les députés a apporté les justifications d'une telle révision du code électoral et surtout l'augmentation du nombre des députés. Awateo Dabalo, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale.
Les critères qui ont milité à l'augmentation du nombre, d'abord il y a le fait qu'on veut découpler les circonscriptions électorales qui comportaient deux préfets. Cela a une conséquence donc sur le nombre des députés. Ensuite, il a été pris en compte l'organisation administrative du pays, plus des spécificités et enfin la démographie, donc la population qui habite au niveau de ces circonscriptions électorales.
Paco Madjourouvi, actuel président du cadre permanent de concertation, se réjouit de ce que le gouvernement ait pu considérer les propositions de la classe politique togolaise réunie au sein du CPC.
L'aspect le plus important, c'est que nous avons mis quand même en place un cadre permanent de concertation où toutes les forces politiques ont quand même débattu sur ces sujets et ont convenu ensemble que cette augmentation qui prendrait en compte ces éléments qui ont été indiqués dans ce texte suffise largement pour que le gouvernement, qui n'était pas obligé, puisse accepter et aller dans ce sens.
Le critère de l'augmentation sensible de la population togolaise, estimé aujourd'hui à plus de 8 millions d'habitants, pour justifier la hausse du nombre des députés, laisse perplexe le député Abbas Kabwa du Mouvement des Républicains Centristes, MRC, qui se soucie des finances de l'État.
Parlons des incidences financières. Vous connaissez très bien aujourd'hui ce que vivent nos compatriotes. Mais 22 députés en plus, l'argent là, on va les trouver où? La deuxième question, le gouvernement est tenu de faire le recensement général de la population chaque 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, nous allons encore augmenter, oui ou non?
Sur les critiques qui portent sur le coût financier qui sera lié à la prise en charge de ces 22 nouveaux députés, Sénat Alipuy, député de l'Union des Forces de Changement, UFC, n'y voit qu'une sorte de répartition des richesses.
Si on se met dans une perspective économique, on peut dire que oui, ça va coûter un peu plus d'argent à l'État. De toute façon, ces députés-là, ils vivent au Togo. L'argent qu'ils vont gagner, 90%, va être dépensé ici. Si ce n'est même pas 100%, plus des dettes qu'ils contractent même parfois pour pouvoir justement aider les populations.
La future Assemblée nationale va compter 113 députés dès la prochaine législature, issus des prochaines élections législatives. Elles sont prévues avant la fin du premier trimestre de cette année. Kossi Boussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Nous vous en parlions dans les nouvelles hier. Le Burkina Faso vient d'inaugurer une usine de traitement des résidus miniers, une première dans cet État africain producteur d'or et qui est gouverné par un régime militaire mettant l'accent sur la souveraineté du pays. Des acteurs miniers, mais aussi de la société civile, ont favorablement accueilli l'ouverture de cette usine, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
L'usine de traitement des résidus miniers dénommée Golden Hen SA est située dans la zone industrielle de Kosodo, au nord-est de la capitale. Le gouvernement a décidé de mettre sur pied une telle usine pour avoir un regard sur ces résidus miniers, car le pays en génère des tonnes dont le traitement n'était jusqu'alors pas pris en compte par la chaîne de valeur. Le pays a désormais un regard sur les métaux contenus dans ces résidus miniers, tels le charbon fin, les scories, les cendres et l'acide concentré. le ministre des Mines, Yacouba Zabré Gouba.
En dépit de l'essor de l'industrie extractive dans notre pays, force est de constater qu'il manque certains maillons essentiels dans la chaîne des valeurs. Pendant que ces sociétés minières géraient plusieurs tonnes de résidus, l'amer constat est qu'aucune entreprise spécialisée dans l'extraction des métaux précieux contenus dans ces résidus n'existe sur le territoire national.
L'équipement de l'usine est une expertise burkinabé, une révolution selon le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition.
Les machines ont été entièrement conçues ici. Je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas, ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici, c'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers. Parce que nous avons la technologie sur place pour le faire.
Jonas Yen, acteur de la société civile à la télévision nationale, parle d'une souveraineté économique avec l'avènement de cette usine.
Saluer le réveil d'une certaine politique en matière d'exploitation de l'or dans notre pays. Nous ne pouvons que souhaiter que la dynamique se poursuive et qu'on puisse atteindre effectivement la souveraineté économique de notre pays. On a tous les moyens nécessaires, toutes les potentialités économiques pour tendre moins la main vers l'extérieur.
En décembre 2018, un scandale avait éclaté dans une exportation frauduleuse d'un résidu minier, l'affaire dite au charbon fin. Après 5 ans de procès, le gouvernement a finalement trouvé une entente avec la société incriminée. Il dit aussi avoir tiré des leçons de cette expérience, d'où la mise au point de cette usine de traitement des résidus miniers. L'or occupe le premier rang parmi les produits d'exportation du pays. En 2022, le Burkina enregistrait 13 mines industrielles d'or pour un rendement évalué à 57,674 tonnes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Société d'énergie et d'eau du Gabon déclare la guerre à la fraude. Son objectif, le recouvrement des factures impayées afin de rétablir son équilibre financier. L'entreprise a notamment mis au point des mesures de contrôle pour ce qui est des compteurs électriques à Libreville qui abritent de nombreux branchements anarchiques. De la capitale gabonaise, le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
L'électricité reste un luxe pour beaucoup de ménages à Libreville. Pour contourner cette difficulté, les plus ingénieux se branchent directement au réseau électrique. Un trafic illicite de courant, vu de plusieurs années, démantelé maison après maison dans le nord de la capitale par les équipes du distributeur agréé.
C'est un client qui a été trouvé branché en direct, il n'a pas de compteur. Donc il est directement branché au réseau SCG, ce qui constitue une fraude. Là, on a suspendu le client en fourniture d'énergie. On lui laisse une banderole pour lui permettre de passer à l'agence pour faire un abonnement.
Mais selon les familles visées par l'opération coup de poing, la fraude est née de la frustration. Quand les beaux quartiers brillent toute la nuit, attendre des mois, voire des années avant d'avoir la lumière devient insupportable pour Didier et ses voisins de la cité à l'embras.
Si certaines choses ont été faites telles qu'elles ont été observées, c'est parce que la SEG de son côté n'a pas honoré sa partie du contrat. Nous nous retrouvons avec des personnes, des résidents qui ont des quittances, des compteurs de courant, mais qui n'ont jamais été livrés, et ce depuis 2017.
Depuis le début de la semaine, les premières victimes du contrôle de conformité des compteurs sont invitées à entamer des procédures afin de bénéficier des installations électriques. Certains usagers, comme Mathieu, ne savent plus où donner de la tête.
Allez voir les congélateurs. Toute cette nourriture là-bas, c'est gaspillé. Parce qu'ils sont venus hier. Quand ils sont forts, c'est pour venir couper les gens le courant, que le président prenne ça en charge.
Dans les maisons ciblées par la chasse à la fraude, c'est le désarroi. Sarah Bekale, une jeune lycéenne, redoute les conséquences de cette opération.
C'est vous qui demandez que l'excellence soit dans l'école, c'est vous qui demandez que les élèves étudient. Mais comment on va étudier alors qu'il n'y a pas le courant?
En dehors de la lutte contre les branchements anarchiques, la Société d'énergie et d'eau du Gabon remet à niveau les installations abandonnées. et Jeune Bourdette, chef de département commercial à la SEG.
Programme qui nous permet de mettre en conformité nos installations, de voir en même temps le principe des impayés, mais surtout de remettre à niveau toutes les installations que nous avons sur le Grand Libreville.
Selon les données de la compagnie, plus d'un compteur sur cinq présente des irrégularités, un manque à gagner important pour l'entreprise avec des conséquences néfastes sur la qualité du service. Elle promet de poursuivre l'opération à travers le Grand Libreville jusqu'au mois d'avril prochain. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Nous revenons un peu plus en profondeur ce matin sur la victoire de Donald Trump au New Hampshire. L'ancien locataire de la Maison Blanche a vaincu sa rivale Nikki Haley lors de la primaire républicaine dans ce petit État américain avant-hier, une semaine après avoir remporté la première manche dans l'Iowa. L'ultra-favori de la droite se rapproche ainsi de l'investiture de son parti, de même que d'un nouveau duel électoral entre lui et l'actuel président démocrate Joe Biden en novembre prochain. Pour un décryptage, Eric Manirakidza a joint à Annapolis dans le Maryland Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group.
L'ancien président Trump a fait de gros efforts avec toute son organisation parce qu'il a maintenant monté une organisation vraiment importante et pour essayer de gagner très rapidement et ne pas avoir besoin de et pour se débarrasser de tous les autres candidats aux primaires et pouvoir commencer à faire la bataille contre le président Biden.
Nick Haley s'accroche et veut toujours y croire.
Vous savez, je pense qu'elle s'accroche parce que elle pense que peut-être au cas où il y aurait quelque chose qui n'irait pas avec Trump pour une raison ou pour une autre, hein, il n'est pas forcément en très bonne santé, parfois il lit des bêtises à la radio ou à la télévision. Ils se disent que si vraiment elle pouvait tenir et que lui est obligé de laisser tomber, à ce moment-là, elle aurait une bonne chance.
Le slogan de Nick Haley qui attaque à la fois le président Biden et Trump, Biden too old, Trump too chaos, donc Biden très âgé et Trump chaotique. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un slogan qui va payer pour elle lors du prochain rendez-vous en Caroline du Sud?
Malheureusement, non. Je ne pense pas que ce soit assez important, si vous voulez, ou ça résonne assez avec le public pour qu'elle gagne la Caroline du Sud, parce que Trump a à nouveau une très bonne organisation là-bas et il est très populaire parmi les électeurs de Caroline du Sud, malgré qu'il soit l'ancien gouverneur, il contrôle un petit peu tous les conservateurs et c'est un État très conservateur. Et vous avez vu, il a amené même un sénateur américain qui s'appelle Scott, qui est un sénateur africain-américain, hein, qui est un type remarquable d'ailleurs. Il parle très bien, il est très fort, il est très respecté, mais il s'est mis avec Trump plutôt que de rester avec elle, bien qu'il soit républicain.
Et comment vous analysez les attaques des deux côtés, Trump contre Haley et Nick Haley, les reproches contre Trump?
Bah écoutez, c'est un peu de bonne guerre dans une primaire. Hein. Tout le monde dit que l'autre est très faible et Haley a certainement beaucoup plus d'expérience internationale que Trump et elle est beaucoup moins méchante, si vous voulez, avec tous les autres candidats et les plus polis quoi que Trump. Mais c'est pas ce que cherche vraiment l'électorat en ce moment. Mais c'est plutôt une question de style qu'une question de programme, j'ai l'impression.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le politologue Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group, ici aux États-Unis. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 25 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Firmin Koyawida, à la technique Kelvin Fowler. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine, je vous souhaite une excellente journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir. Take care.